Chapitre 10. Il était rare que le vendredi, Courteheuse revînt de bonne heure à Oissel, car s'il n'aimait pas les dîners de cérémonie chez les autres pas plus que chez lui, il avait conservé le goût des pique-niques où, avec des camarades, on peut manger, boire et rire à ventre déboutonné et en manche de chemise, les coudes sur la table, crier, chanter, discuter à l'aise. Pour s'être marié, il n'avait pas lâché ses amis de jeunesse, pas plus que ceux-ci ne s'étaient éloignés de lui. Et le vendredi, la journée de travail finie, ceux qui étaient libres se retrouvaient au rendez-vous fixé pour se mettre à table l'estomac dispos et l'esprit allègre. C'est bon tout de même de se retrouver. Mais ce qui ne lui paraissait pas moins bon que la compagnie des camarades, c'était le menu de mangeailles, discuté et commandé la semaine précédente, qui, pour l'abondance des plats comme pour la violence de l'accommodement, ne ressemblait en rien à la cuisine de Célanie. C'est bon tout de même de changer de régime. On mangeait ferme, longuement, bruyamment, et quand à la fin on quittait la table, c'était invariablement pour s'en aller déguster quelques verres de liqueur forte chez Alphonse, rue des Charrettes, à l'assommoir des ouvriers du port, qu'on appelle à Rouen des Soleils, comme s'il y avait un régal pour les estomacs repus de ces bourgeois, à jouir du spectacle de l'ivrognerie chez les misérables, aves et déguenillés, qui se tiennent appuyés, debout contre les murs crasseux de la salle sombre, et se nourrissent d'alcool, moins cher pour eux que la viande. Puis, toujours pour changer de régime, Courteheuse, comme il le disait en riant à ses amis, remplaçait l'araignée par la poularde, et quand le soir, par le train d'une heure, il rentrait à Oissel, les parfums communs et âcres qu'il rapportait disaient à sa femme où et comment il avait passé sa soirée. Mais ce vendredi-là, quand il arriva à 6 heures du soir, c'était simplement le tabac qu'il sentait. Tout de suite, il appela sa femme. « Voilà pour les recevoir, » dit-il en tirant de sa serviette en maroquin un paquet enveloppé de serge verte. « Recevoir qui ? Mes voleurs s'ils reviennent cette nuit. » Et de la serge, il sortit un revolver. « Tu en avais déjà un ? » ?»« Cela fera 2. Celui-là a une portée plus longue. » « Tu les attends cette nuit que tu es rentré si tôt ?»« Pourquoi pas ? Mais s'ils viennent, ils trouveront à qui parler. En tout cas, on laissera brûler une veilleuse dans ta chambre et dans la mienne. » « Pour les guider ou pour les éloigner ? » demanda-t-elle d'un air ingénu. « Que tu es bête ! Pour les éloigner ! Rien ne déconcerte plus les voleurs qu'une veilleuse allumée dans une maison. Le plus souvent, en voyant la lumière, ils s'en vont. » Alors la veilleuse rendait l'achat du revolver inutile. Il la regarda en haussant les épaules et en se disant que les filles élevées dans les couvents sont vraiment trop bêtes, mais qu'après tout, les maris ne doivent pas s'en plaindre, la bêtise de la femme garantissant la tranquillité du mari. Célanie, qui croyait que son maître resterait à Rouen, avait fait un dîner au goût de sa maîtresse. Quand Courteheuse, en se mettant à table, apprit ce qu'on allait lui servir, il eut un vif accès de mauvaise humeur. Une matelote d'anguilles et un plat de haricots verts pour tout menu. Au lieu d'une grosse poularde, ne trouvait qu'une araignée, la chute était lourde. Il n'eut d'autre remède pour l'adoucir que de boire pendant la soirée force grog dans le kiosque et de fumer de nombreuses pipes de consolation en maudissant le gouvernement qui ne protège pas les honnêtes citoyens. Canailles de voleurs ! Qu'ils revinssent la nuit prochaine et ils tireraient dessus comme sur des bêtes puantes. 2 revolvers à 6 coups, un fusil de chasse chargé à balles, ça ferait une fameuse bataille dont on parlerait. Le lendemain, à l'arrivée des ouvriers électriciens, il ne pensait plus à sa déception de la veille, et 20 fois dans la journée, il se dérangea de son travail pour aller les voir poser leurs appareils, causer avec eux et se faire expliquer les mystères de l'électricité auxquels il n'entendait absolument rien. Alors ceux-ci, autant pour s'amuser de son ignorance que pour pousser à l'enflure du mémoire, se mirent à lui raconter des merveilles. Ce qui complétait bien la sonnerie, c'était l'éclairage. En même temps que la trembleuse commençait son tapage, des lampes pouvaient illuminer la maison entière, le jardin, la cour, et alors on fusillerait les voleurs à coup sûr. Mais si tentante que fût cette féerie, en homme avisé qui sait compter, il se contenta de la sonnerie. Pendant ce temps, Hortense, qui n'adressait pas un mot aux ouvriers et qui n'allait jamais voir leurs travaux, comme si ce qu'ils faisaient n'avait aucune importance pour elle, se dévorait d'impatience à chercher un moyen pour assurer ses rendez-vous avec la Vaupalière, sans en trouver aucun qui lui donnât une entière sécurité. Et les journées s'écoulaient éternelles. Elle l'avait là à deux pas, et c'était à peine si, en faisant le tour du jardin, elle pouvait échanger avec lui un rapide et furtif regard dans lequel elle lui jetait l'angoisse de son impatience et de son inquiétude. Encore était-il difficile de passer souvent devant l'étude, car si elle n'avait rien à craindre de son mari qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, elle ne pouvait pas ne pas remarquer que Boulnois l'épiait et que Fauchon la suivait des yeux avec une persistance exaspérante. Les choses traînèrent ainsi jusqu'au mercredi, qui était le jour de l'inventaire à Sotteville, et malgré tout ce qu'elle arrangea pour avoir un tête-à-tête avec lui, ne fut-il que de quelques secondes, il fallut qu'elle attendît jusque-là. Mais parce que Courteheuse et Fauchon quitteraient l'étude le matin comme à l'ordinaire, parce que Boulnois s'en irait déjeuner à 11 heures, il n'était pas possible de savoir à l'avance si, à ce moment, des clients n'accapareraient pas la Vaupalière sans qu'ils pussent se débarrasser d'eux. Heureusement, ce contretemps ne se produisit pas, et Boulnois n'avait pas fermé la grille du jardin qu'elle parut au haut des marches du cabinet de son mari. « Viens !» Aussitôt après la sortie du caissier, il s'était levé et avait été fermer la porte de l'étude. Deux pas à faire pour être près d'elle. « Et c'est Lani ? » demanda-t-il quand il put parler. T'imaginais-tu que je m'exposerais à ce que Célanie pût, par sa présence, empêcher notre rendez-vous? Sois tranquille, elle ne nous gênera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux venir sans crainte dans le salon. L'as-tu tuée? Demanda-t-il en riant, penché sur elle et la tenant dans son bras pour l'accompagner. S'il n'y avait eu que ce moyen pour nous voir, sois certain que je n'aurais pas balancé. Mais je n'ai pas eu besoin d'en venir à cette extrémité. Je l'ai simplement envoyée chez sa mère malade, et d'où elle ne reviendra que demain soir. Nous avons donc à nous aujourd'hui et demain. Et après, as-tu trouvé quelque chose? Nous arriverons à cela tout à l'heure. N'as-tu rien à me dire avant? J'ai à te dire que depuis vendredi, j'ai vécu dans l'angoisse, ou plutôt que je n'ai pas vécu. Ça, c'est gentil. C'est cela que je veux que tu me dises. Je n'ai vraiment senti combien je t'aimais qu'en reconnaissant que nous pouvions être séparés. Ça a été un déchirement, un anéantissement, une mort. Oh, le bien-aimé ! Une rage contre moi-même et aussi contre l'autre en me trouvant impuissant devant ce qui arrive. Ce déchirement, je l'ai éprouvé, et aussi cet anéantissement, cette mort. Comme j'ai ressenti cette rage qui m'a affolé pendant ces 4 jours, car c'est ce matin seulement qu'après avoir inventé, pesé, accepté, rejeté 1000 combinaisons plus dangereuses les unes que les autres, je me suis arrêtée à celle qui, je l'espère, peut nous faire plus libres que nous ne l'étions avant cette invention de fermeture électrique. C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est que je puisse à volonté interrompre le fonctionnement de la sonnerie de façon à t'ouvrir la fenêtre du kiosque ou la porte de la maison. J'ai interrogé l'ouvrier électricien qui est venu vendredi en le promenant partout et de ce qu'il m'a dit résulte la certitude qu'il n'y a pas de moyen à notre disposition pour obtenir ce résultat. Alors, c'est l'interrupteur seul qui commande la sonnerie. Qui ne l'a pas à portée de la main ne peut rien. Tu ferais lit commun avec ton mari ? S'écria-t-il. Elle lui éclata de rire au nez. « Ce que t'es bête, dit-elle, ça passe la mesure. »« Enfin !»« Je veux, sans qu'ils en aperçoivent, aller à l'interrupteur pour redresser le levier et y retourner pour l'abaisser. »« Dans quelles conditions cela est-il possible ?»« Dans une seule. »« Celle d'un sommeil assez profond pour que je ne le trouble pas par ces 2 voyages d'aller et retour. » Et ce sommeil, on ne peut le lui procurer que par un narcotique, du laudanum, de la morphine, n'importe quoi, un médicament qui le fasse dormir et que je lui administrerai quand nous devrons nous voir. Voilà mon moyen. Qu'en dis-tu ? Il ne répondit pas. En as-tu un autre ? Demanda-t-elle. Non. Eh bien alors, il faut bien que nous prenions celui-là si tu n'as pas d'objection contre lui. Je le trouve dangereux. Tu sais que j'ai appris à lire de bonne heure et qu'à partir de 7 ans, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, sans compter que j'entendais les ouvrières de ma mère se raconter tous les romans qu'elle dévorait. C'est ainsi que, dans un livre de voyage sur l'Italie, dont j'ai oublié le titre, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille qui, tous les soirs, allait prendre sous le traversin de son père un trousseau de clés pour ouvrir la porte à son amant et le reporter le matin. C'est une histoire. Eh bien, pour nous, ce sera la réalité. Et si, malgré le narcotique, ton mari s'éveille au moment où tu mettras la main sur l'interrupteur ? Si tu renverses un meuble dans la chambre sombre ? D'abord, la chambre ne sera pas sombre, attendu que j'y laisserai brûler toutes les nuits une veilleuse pour écarter les voleurs. Ensuite, si, malgré le narcotique, il s'éveille, je ne serai pas pour cela prise en flagrant délit, attendu qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens somnambule. Est-ce que les somnambules ne se promènent pas partout la nuit sans savoir ce qu'ils font ? Vraiment, je t'admire. Rien ne te démonte. Pour toutes les difficultés, tu as des ressources extraordinaires. C'est le propre de ceux qui aiment. Ce n'est pas la foi qui transporte les montagnes, c'est l'amour. Et je t'aime. De ton côté, fais donc quelque chose aussi. Tu as un ami interne à Rouen ? Oui, immobile. Eh bien, va le trouver dès ce soir, plains-toi d'insomnie, demande-lui de l'opium, de la morphine, un remède qui te fasse dormir, et dès demain, nous aurons à nous quelques heures de nuit, non dans le kiosque, mais dans ce salon, où je t'introduirai en t'ouvrant la porte de la cour, et nous serons aussi en sûreté que nous le serions dans ta chambre. Est-ce entendu ? Qui pourrait te résister ? Alors, embrassez votre servante, mon doux maître. J'espère qu'elle l'a bien gagnée.